Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, flairer la vigueur des classiques littéraires et les attraper comme une femme d'âge mûr assoiffée de jouvenceau. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui assume sa cougar attitude. Pour m'accompagner dans cette balade dépravée, je suis avec mon petit monstre vorace à moi, qui a la morale basse, mais le moral haut. Bonjour Constance.
Bonjour Clara Dupont-Mono, ma reine, et je ne parle pas de la femelle, de l'animal.
Merci Constance. Avec nous, celle qui a inspiré la chanson de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Elle a bien souvent remis de l'ordre à ses cheveux, un peu plus de noir sur ses yeux. Bonjour Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
Et avec nous enfin, celle dont le sujet de thèse à Paris 22 était, je cite, « érotisme post-pubère » dans l'œuvre de Raymond Radiguet. Elle n'a pas eu de mention, c'est dommage. Bonjour Élodie Emery.
Bonjour Clara Dupont-Mono.
Le jeune classique que nous allons croquer aujourd'hui, les auditeurs vont devoir le deviner. À la façon de Julien Lepers, souvenez-vous qui a été écarté du jeu au nom d'un magnifique argument, le jeunisme. Mais toutes les cougars aiment ce fléau. Êtes-vous prêts, chers auditeurs ? On y va. J'ai été écrit en quelques mois et vlan dans la gueule de Victor Hugo qui a mis 17 ans pour écrire Les Misérables. Je suis publié en novembre 1830 à seulement 750-800 exemplaires. Mon personnage principal est fils de charpentier. Il veut devenir prêtre pour échapper à sa condition. Il trouve une place de professeur au sein d'une famille bourgeoise et là, il séduit madame. Elle a 36 ans, il en a 19. Il est découvert, revient au séminaire puis part à Paris. Là, il devient secrétaire dans une famille plus que bourgeoise, noble, et il séduit la fille. Cette fois, elle a son âge et cette fois, il va l'épouser. Mais la dame bourgeoise numéro 1, qui a 17 ans de plus que lui, fait capoter ses plans. Furieux, mon héros arme son pistolet et tire sur elle en pleine église. Il est condamné à mort. Je brasse donc les thèmes de l'ascension sociale ratée, du religieux hypocrite, de l'amour utilisé de façon opportuniste, de l'amour avec une bonne différence d'âge aussi, et pour une fois l'homme est plus jeune que la femme. J'ai beaucoup de second degré. Bref, je détonne, alors que justement, je porte le nom de deux couleurs. Je suis sûr que plein d'auditeurs ont trouvé ce titre et le cri devant leur poste de radio. Pour les autres, je donne un petit indice.
En rouge et noir, j'exilerai ma peur.
Obligé, le rouge et noir de Stendhal. Fastoche.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Le sais-tu ? Pour écrire Le Rouge et le Noir, Stendhal s'est inspiré non pas d'un fait divers, mais de deux faits divers. Stendhal, il est comme ça, il fait tout en double. Le rouge et le noir, Madame de Rênal et Madame de la Mole, Julien Sorel qui est prolétaire et intellectuel. Stendhal, c'est la vie au carré. Deux faits divers donc, l'affaire Berthet et l'affaire Lafargue. Antoine Berthet, fils d'ouvrier, destiné à la prêtrise, a tué sa maîtresse plus âgée et plus riche que lui. C'est l'histoire de Julien Sorel. Et Lafargue, lui, il a décapité sa maîtresse en 1829. Son procès a fortement inspiré Stendhal pour celui de Julien Sorel. Pour le dire autrement, Stendhal, plus fort que fait entrer l'accusé. Pour nous accompagner dans ces mœurs subversives, nous avons heureusement un guide moral qui vaut toutes les soutanes. Ce guide a le verbe comme ses talons hauts. Et on en a besoin. Bonjour Marie Degand.
Bonjour Clara Dupont-Mono.
Marie Degand, vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Bordeaux. Vous êtes aussi l'auteur d'une savoureuse étude sur le rouge et le noir, parue aux éditions Bréal, dans la collection Connaissance d'une œuvre. Vous aimez Stendhal comme moi Chanel avec passion. Alors, dites-nous Marie, pourquoi vous aimez le rouge et le noir ?
Parce que c'est un livre sur la jeunesse. Alors on parle ici entre cougars certainement, mais c'est un livre qui dit beaucoup de choses sur ce que c'est que d'être jeune. Ça veut dire qu'on idéalise le monde, qu'on le connaît uniquement par les livres. Et Julien Sorel, c'est ça, c'est nous quand on arrive dans le monde la première fois et qu'on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait lu ou ce qu'on avait rêvé.
Est-ce que vous nous liriez votre passage préféré ?
Je vais vous lire ça d'une voix un peu sèche, parce que c'est sobre. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis », se disait-il à lui-même. « Physiquement, je ne le puis ». En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba.
Très fort. Et pourquoi vous aimez ce passage particulièrement ?
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. On nous le décrit, voilà, il est en route et on ne sait pas ce qu'il va faire. Et il tue la seule femme qu'il ait jamais aimée. C'est beau ça, non ?
Oui,
enfin,
c'est... oui, puis c'est un peu ballot.
C'est grandiose.
Oui, puis c'est un peu ballot aussi. On se dit que...
Ah ben c'est ballot, mais elle... de toute façon, il ne pouvait plus être avec elle. Donc tant qu'à faire, perdu pour perdu. Sa dignité,
ça
un peu d'amour féroce comme ça, moi je trouve.
Ça a du panache.
Ça a du panache, oui.
Est-ce que tout le monde autour de cette table trouve que Le Rouge et le Noir, et Julien Sorel en particulier, a du panache ? Élodie Emery ?
Je vais être obligée de dire que non. J'ai pas trouvé... J'ai trouvé que c'était très long. Et je dois le dire, assez douloureux comme lecture.
Eh bien, merci à lundi.
Voilà.
Liliane Roudière.
Je vais peut-être vous quitter tout de suite aussi.
Ah, parce que
j'ai trouvé ce roman très, très foisonnant, comme vous l'écriviez, Marie. Il y a trop de personnages, et puis les allers-retours amoureux, le « fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis », etc. Bon, voilà.
Constance.
Alors, écoutez, moi, j'étais absolument déroutée, parce que je m'attendais à une histoire de poisson. Le Rouge et Noir, et j'ai été déçue de ne pas... Après, c'était une surprise. Et vous, Clara ?
Alors, l'objectif, c'était que Marie Degand reste jusqu'à la fin de cette émission. Eh bien, moi, figurez-vous, je vais détonner, je suis comme Stendhal. Moi, j'ai tout aimé dans ce livre, mais tout. Je l'ai redécouvert. Alors déjà, ce que j'ai adoré, c'est le fait de camper une love story entre un jeune et une plus âgée. Alors, Aliénor d'Aquitaine avait un petit peu débroussaillé le chemin. Hein. Flaubert va reprendre le truc presque 40 ans plus tard, avec l'éducation sentimentale. Il n'empêche, en 1830, c'est ultra subversif. Ça l'est toujours d'ailleurs, hein, au XXIe siècle. En gros, Madame de Rênal, Madonna, même combat. J'aime aussi que Julien Sorel ne soit pas sympathique, parce qu'il est quand même obsédé par la revanche sociale. Ça, j'avais oublié à quel point il est tenaillé par cette envie. C'est le genre de garçon que jamais je ne draguerai dans un cocktail. J'aurais trop peur qu'il me pique mon sac. Néanmoins, je bois quelques coupettes avec lui parce qu'il est irrésistible. En parlant d'irrésistible, je me tourne vers Constance, que la différence d'âge en amour et ailleurs d'ailleurs n'a jamais freiné, pas plus que les premières phrases qui ne lui font pas peur. La preuve, Marie Degand, elle dissèque la première phrase du Rouge et le Noir de Stendhal.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Petite question, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire, Clara, pour que vous éprouviez ce besoin si sadique de me punir en m'obligeant à lire Le Rouge et le Noir ? Vous savez, la communication, c'est essentiel dans une équipe. On est des êtres humains, on n'est pas des Julien Sorel, voilà. Allez, la petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de Franche-Comté. Donc, dans cette petite ville de Verrières, nous faisons la connaissance de Julien Sorel. Julien grandit sans tendresse ni amour dans une ambiance virile, pendant qu'il lit des livres en latin en cachette. Sa famille coupe du bois torse nu dans la forêt en plein hiver en buvant de l'essence de tronçonneuse pour se désaltérer. Oui, effectivement, Julien, c'est pas le chouchou de la portée. L'éducation de ce vilain petit canard passe par une tripotée de curé. N'essayez pas de changer la place du mot tripotée dans ma phrase, même si c'est tentant vu l'actualité. Merci. Comme il parle latin, il est embauché comme précepteur chez le maire du village, monsieur de Rênal, un aristo lourdingue, et il fait tourner la tête de sa femme, madame de Rênal, une cougar mal mariée, qui s'ennuie ferme, mais qui a de beaux restes. Elle tombe folle amoureuse de lui, mais elle culpabilise, tandis que lui ne culpabilise pas, parce que de son côté, il est plutôt fou amoureux de Napoléon. Les soupçons de monsieur de Rênal concernant la fidélité de sa femme poussent Julien à partir au séminaire, un endroit sombre et humide, entre couilles, où le jour le plus festif, c'est celui de la saucisse de Morteau à la cantoche. Julien trouve une place de secrétaire à Paris auprès du marquis de la Mole. Arrêtez avec ces histoires de saucisses, ça devient lourd. Il tombe amoureux de Mathilde, la fille du marquis. Enfin non, il tombe pas amoureux d'elle, il la séduit par quelqu'un. Et elle veut, puis elle veut pas finalement, elle veut, puis oui, puis non, puis en fait elle tourne autour du pot, tout le monde se renifle le cul, et une fois de plus ça termine avec une fête à la saucisse. Mathilde tombe enceinte, il va l'épouser et enfin devenir noble et riche. Mais coup de théâtre, son ex, Madame de Rênal, fait un comeback pour se venger et elle révèle au marquis que Julien n'est rien qu'un petit arriviste et un adepte de la saucisse partie. Le mariage est annulé, Julien tire sur Madame de Rênal pour se venger, mais comme il vise comme un manche, alors elle ne meurt pas et finalement elle l'aime encore plus. Et lui, en fait, bah, il l'aime à fond, mais du coup finalement Mathilde, bah, en fait, il l'aime pas parce qu'il l'aimait pas depuis le début. Et de toute façon, Julien, il va être exécuté parce qu'on tire pas sur les gens, c'est vraiment trop méchant. Bref, la petite ville de Verrières abrite un habitant affreusement ambitieux qui déteste la noblesse mais qui rêve de péter dans la soie par tous les moyens, et ça va être excessivement pénible pendant 600 pages d'attendre qu'il crève, ce petit connard de Julien Sorel. Et croyez-moi Clara, d'une manière ou d'une autre, je me vengerai.
Merci Constance, je sens toute l'amertume que ce livre a réveillée en vous. Marie Degand, est-ce que vous êtes d'accord, mais j'espère que non, avec ce portrait de Julien Sorel?
Mais non, mais c'est profondément injuste, pourquoi tant de haine? C'est vraiment... Julien, c'est un homme qui veut se connaître, donc il veut faire de grandes choses, mais il sait pas qui il est. Donc il essaye, il tente auprès des femmes à chaque fois, il passe pour fourbe, mais c'est pas vrai, il est très sincère. Alors il a une sincérité à éclipse, donc toutes les 5 pages, il en aime une autre, et puis voilà, mais je pense qu'il y a un malentendu en fait sur le deuxième mot du livre. Quand vous avez décortiqué la première phrase, c'était « la petite ville de Verrières peut passer pour ». Puis vous, vous êtes fait avoir par les apparences. Vous vous êtes dit « bon, voilà ». Mais tout est dans le double fond des êtres chez Stendhal. Donc il en dit très peu et c'est à nous d'imaginer.
Voilà. Je m'excuse.
Mais dans votre livre, Marie Degand, vous avez écrit notamment sur l'omniprésence des échelles dans le rouge et le noir. Et c'est le côté un peu opportuniste dont a parlé Constance qui m'y fait penser. Les échelles sont en effet citées une 60aine de fois. Alors qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces échelles?
Oui, oui, je vous vois venir. Vous voulez encore que je dépeigne Julien Sorel comme un sacré arriviste. Mais ça, c'est chez Balzac, chez Maupassant. Mais chez Stendhal, c'est pas ça. Les échelles, elles sont d'abord utilisées comme au Grand Guignol. Ça lui sert à aller chez sa maîtresse, d'abord. Donc il y a des scènes totalement absurdes où il faut cacher l'échelle sous le lit. Ça, bon, c'est du mélodrame... De feuilleton, c'est du roman feuilleton, voilà. Mais c'est aussi un symbole du sublime. Comment est-ce qu'on gagne les lieux élevés? Comment est-ce qu'on atteint l'amour-passion? Bon. Donc certains ne restent qu'à de petits procédés bassement matériels, comme grimper à une échelle pour essayer de séduire. Et puis d'autres s'élèvent l'âme. Mais vraiment, je pense qu'il faut souligner que c'est un idéaliste, Julien Sorel.
Plus qu'un arriviste.
Ah, mais complètement, oui, oui. Son rêve dans la vie, c'est d'être comme Napoléon, c'est de faire de grandes choses et d'être libre, voilà. Après, s'il faut en passer par l'arrivisme social, quelques femmes en chemin, d'accord. Mais ce qui le rend en plus humain, en plus d'être un idéaliste, c'est le fait que ce chemin tout tracé de progression sociale est déjoué par son amour. Il tombe amoureux fou de Madame de Rênal, quand même. Alors, vous allez me dire, non, il la quitte, etc. Mais il la quitte parce que des lettres anonymes l'ont dénoncé. Donc c'est la petitesse de la société qui le contraint à être un salopard.
Stendhal était un rebelle. Il s'est révolté contre son précepteur, l'austère abbé Ryan, puis contre son père. Il a fini par faire un bras d'honneur à tous ses gens, à son enfance, à sa ville de Grenoble, pour partir à Paris. Moi, je me suis dit, il y a du Stendhal dans Julien Sorel, Marie Degand, ou pas?
Oui, 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 notamment pour tout ce qui est étonnement devant le monde. Sans arrêt, Julien Sorel dit, mais quoi, aimer, n'est-ce que cela? Quoi, le monde, c'est ça? Bon... C'est un premier écrit avant l'autobiographie fictive de Stendhal qui s'appellera La vie d'Henri Brûlard, qui est un livre vraiment magnifique où notamment il décrit sa mère, et on voit que pour lui, écrire des romans, c'est vivre avec ses morts, c'est les faire vivre dans les pages. Et je pense que comme définition de l'écriture et de la lecture, il n'y a rien de plus beau. Considérer qu'on va lire pour retrouver les gens qu'on a perdus.
Ça calme tout le monde. En tout cas, c'est à Paris que Stendhal découvre la vie mondaine, les salons, l'opéra, les dîners, et... Oh, comme c'est dommage! À 3 siècles près, il aurait pu prendre les conseils d'Élodie Emery, qui connaît bien les dîners en ville. Eh bien oui, ils auraient fait un super binôme, tous les deux, Sorel-Emery. D'ailleurs, comment parler du rouge et du noir dans un dîner en ville quand on ne l'a pas lu? Eh bien, c'est Élodie Emery qui va nous donner quelques tips.
Oui. Alors tout d'abord, si vous en avez marre des dîners en ville, ça peut arriver. La première chose à retenir, c'est que le rouge et le noir vous mettent durablement à l'abri de toute vie sociale. Ça fait 672 pages, donc c'est super, les dîners en ville, vous oubliez. Dîner tout court, d'ailleurs, vous oubliez aussi. Le rouge et le noir, c'est comme un bon confinement. On mange des chips et on ne voit plus personne. Alors quand vous serez arrivé au bout du livre et que vous vous réhabituerez tout doucement aux usages sociaux, vous aurez envie de parler de ce que vous venez de vivre, c'est bien naturel. Alors le plus simple, c'est de lancer le sujet sur la différence d'âge entre Julien Sorel et Madame de Rênal. Hein, Julien, 19 ans au début du livre, Madame de Rênal, 36. On l'a dit, c'est un sujet qui intéresse votre oncle Jean-Claude, par exemple. Enfin, ça l'intéresse si c'est la dame qui est plus âgée, évidemment. Vous pouvez flatter la misogynie de votre oncle en citant Monsieur de Rênal, le mari de Madame, qui s'écrit à plusieurs reprises dans le roman « Voilà comment sont toutes les femmes, il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là ».
Oula, mais c'est risqué.
Alors, c'est risqué en effet, puisque si vous allez dans le sens de Jean-Claude, dans 10 minutes, il va parler bien sûr de Brigitte et Emmanuel Macron, puisque c'est la deuxième différence d'âge qui l'a durablement marqué. Du couple Macron, la conversation va obligatoirement dévier sur l'élection présidentielle et donc sur Éric Zemmour. Commencer un dîner sur le rouge et le noir et atterrir sur le suicide français. Méfiez-vous, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors je vous propose d'évoquer une dimension moins connue du livre et qui convient bien à la situation, puisqu'il s'agit d'un passage relatif aux saucisses et à la choucroute. Lorsque Julien entre au séminaire à Besançon, les autres pensionnaires ne peuvent pas l'encadrer parce que c'est le chouchou de l'abbé, parce qu'il parle latin, mais surtout parce qu'il ne se réjouit pas assez lorsqu'à la cantine on sert des saucisses avec de la choucroute. Je cite. Les voisins de table de Julien avaient observé qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. « Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance. Des saucisses avec de la choucroute, fi le vilain, l'orgueilleux, le damné. » Si par bonheur, on vous sert ce fleuron de la gastronomie alsacienne au dîner, vous pourrez dire « Ah, je ne dis jamais non à de la choucroute, je sais trop ce qu'il en a coûté à Julien Sorel. » C'est érudit, ça passe tout seul. Et en plus, vous gagnerez aussi la sympathie de Jean-Claude.
Merci Élodie Emery. Marie Degand, Élodie évoquait à l'instant le séminaire de Besançon, donc, où on mange en effet de la choucroute. S'il est dans ce séminaire, Julien Sorel, c'est pas pour rien. Alors, il est expressément écrit que pour lui, la prêtrise, c'est quand même d'abord un moyen de se hisser au-dessus de sa condition sociale. On peut donc y voir une critique de la religion. Et en même temps, les deux abbés qui veillent sur lui, l'abbé Chélan et l'abbé Pirard, ils sont très gentils, ils aident Julien Sorel. Donc la religion est à la fois critiquée et honorée dans Le Rouge et le Noir.
Alors chez Stendhal, tout est toujours double. Bon, dit comme ça, c'est une réponse de
ce que
de
j'ai dit au début.
Ou alors c'est une réponse un peu macroniste.
En même temps,
voilà. Stendhal, il aime beaucoup dénoncer toutes les hypocrisies de son temps, mais de manière plus subtile et moins directe que Balzac, je dirais. Et toc pour les Balzaciens, hein, quand même. Bon. Donc, évidemment, pour lui, la religion, c'est la folie des croyances, c'est l'hypocrisie, c'est la dinguerie de toutes les institutions qui deviennent forcément perverses. Ça, c'est très présent chez lui. Et en même temps, il a de l'amour pour les êtres passionnés. Donc, les gens qui sont religieux sincèrement ou qui pensent avoir une liaison directe avec Dieu, ça l'émeut quand même. D'où le fait qu'il y ait quand même quelques abbés un peu sincères et qui sont de belles âmes chez lui.
Élodie Emery.
Sincère, mais qui en même temps l'aide dans son ascension, c'est dans son projet d'ascension. Donc c'est pas exactement dans son projet de devenir prêtre, ce qu'il devient jamais finalement. Il l'aide pour se hisser.
Mais se hisser pour lui, c'est devenir libre. Ce que vous appelez se hisser, c'est fuir la prose du monde, fuir cette famille de salopards où il faut couper des bûches au lieu de lire. Donc,
mais pas de problème côté Julien, mais je veux dire du côté des abbés. Qui pourrait avoir quand même un autre dessein pour lui que celui de devenir quelqu'un du monde.
Non, parce que justement, ils veulent l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il l'aide à avoir des clés pour fuir son destin social tout tracé. Non, je trouve pas ça répréhensible. Justement, alors c'est peut-être là où effectivement il quitte un peu le droit chemin. Mais c'est moral d'un point de vue passionnel, on va dire.
En tout cas, Stendhal n'est pas un auteur qui dénonce. En fait, c'est ça que vous dites.
Oui.
Qui se prend frontalement un sujet qui l'indigne. Un peu comme Balzac en effet, un peu comme Zola aussi d'ailleurs, il ne dénonce pas.
Oui, alors je pense que ça tient au fait que pour lui, l'écriture des choses trop laides est considérée comme une tâche dans la représentation. Si on écrit quelque chose de trop noir, ça vous dégoûte, ça vous donne mal au cœur, littéralement, il le dit lui-même, voilà, ça lui donne envie de vomir quand il y a trop de pauvreté, trop d'aigreur, trop de...
Donc il n'aurait jamais écrit Germinal,
mais
alors
Non, mais par contre, il va mettre des petits détails. Donc vous avez des petites descriptions, par exemple, quand Julien visite la prison, on entend le chant des prisonniers derrière le mur, et puis ça s'arrête. Et le type chez qui il va dîner lui dit « Non, je leur ai demandé d'arrêter de chanter. » Et il imagine ce qu'on a fait à ces prisonniers pour les faire arrêter de chanter. Donc, c'est tout de petits détails révélateurs. C'est jamais une grande fresque pour pas donner la nausée et surtout pour nous laisser, nous, responsables, d'imaginer ce qu'il y a derrière.
We
Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Monod sur France Inter.
Nous nous sommes rencontrés 100 fois dans la rue, vous et vos parents. Je vous connais tous par vos noms. Mon père a travaillé pour vous, et cela vous ne pouvez pas me le pardonner.
Mais regardez-vous, pas un seul ouvrier parmi vous. Pas un seul paysan, non. Rien que des bourgeois indignés. Et il y a de quoi? Oui, j'ai voulu être des vôtres, moi. Un fils d'ouvrier.
Gérard Philippe dans Le Rouge et le Noir, film de Claude Autant-Lara en 1954. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui voit les classiques littéraires comme Madame de Rênal voit Julien Sorel avec gourmandise. C'est sur Le Rouge et le Noir de Stendhal que nous salivons ce dimanche. Et pour sortir du droit chemin de la morale, j'ai mon Belzébuth qui ressemble à un petit ange. J'ai nommé Constance. Et avec nous, Constance?
Nous sommes en compagnie de nos petites pâtisseries à nous. Liliane Roudière, notre pédnole, est là, Elodie Emery, notre zézette de 7, est là également, et Marie Degand, notre coucougnette de peau, est toujours là.
Merci Constance, vous aurez noté le registre lexical de la pâtisserie, surgit nulle part.
C'est gourmandise, vous avez dit gourmandise.
Bien sûr, gourmandise. Le roman de Stendhal a été moult fois adapté au cinéma, à la télévision, à l'opéra. Il était donc temps de lui donner une bande-annonce digne de ce nom. Constance, si le roman Le Rouge et le Noir devait avoir une bande-annonce, quelle serait-elle ?
Le Rouge et le Noir de Stendhal est une œuvre magistrale, mais surtout une œuvre très très longue. Publiée en 1830, elle nous raconte l'histoire de Julien Sorel, un jeune provincial ambitieux, fils de charpentier, pas vraiment branché à éducation positive.
Julien, fils de con, petite tapette, viens bosser avec papa, t'es le feignasse. Le latin ici, c'est pas dans les bouquins qu'on mange ça, c'est la moutarde. Un jour, je serai grand comme Napoléon qui était petit. En attendant, j'apprends par cœur des livres en latin. Du coup, tout le monde croit que je suis intelligent, mais je déteste les bourgeois, les aristocrates, les gens du peuple et la fondue au comté. En fait, je déteste tout parce que je suis un seul petit connard, tout le roman.
Julien Sorel est un séducteur de femmes riches, prêt à tout pour réussir, et Madame de Rênal sera la première marche qui lui servira à gravir les étages de son immense ambition sociale.
Tu vas voir, Madame de Rênal, comment mon petit Napoléon, il va te monter une stratégie militaire pour conquérir ton cœur et ton corps. On joue, feu, on fait ça, tirer. Oh non, Julien, oui, oh oui, oh il ne faut pas, laissez-moi encore, oh oui, plus profond. Non, non, va-t'en, reste, je suis damnée, je t'aime, mon mari sait tout. Oh non, j'ai pas dit Jacques à 10 pouces.
Julien Sorel est un fou d'amour, mais qui n'aime pas. Il devient secrétaire du marquis de la Mole et continue sa stratégie militaire amoureuse auprès de Mathilde, la fille du marquis.
Ah non, je ne l'aime pas. Moi non plus, je ne vous aime pas. Alors moi je l'aime, je la veux, je l'aurai. Il me méprise, alors je le veux. Oh fichtre, oh je suis enceinte, vous m'avez inséminée, c'est donc pour cela que vous appelez Julien le séminariste. Oh, mon père est déshonoré, mais il va vous anoblir Julien, et nous allons nous marier. Oh mais non, mais quelle est cette lettre de Madame de Rênal?
Oh, Julien, vous n'êtes qu'un sale petit connard ambitieux, c'est tout écrit là dans cette lettre. Je vais tuer Madame de Rênal, menue de femelle.
Aïe. Raté, petit bigleux. Aïe. Ah, mais maintenant que tu as essayé de me tuer, Julien, je t'aime encore plus.
Ah non, c'est moi qui l'aime encore plus. Surtout que maintenant, on va lui couper la tête à Louette. Je veux garder sa tête dans un panier pour le promener. Ah, enfin, je vais mourir. Et ça va faire de la peine à mes deux copines. Mais punaise, ça va soulager le lecteur parce que je suis quand même un seul petit connard ambitieux.
Bon. J'ai pas aimé.
Absolument. Et Marie Degand, vous avez réussi à la faire rire quand même, Constance. Ouais, Marie Degand riait.
Je pardonne tout. Je suis comme Stendhal. J'aime même les méchantes.
Alors, on mesure quand même la portée d'un classique aux questions qu'il soulève. Marie Degand, ah, je ne vous l'apprends pas. Mais par exemple, est-ce que Constance a toute sa tête? C'est une des questions.
En tout cas, la celle de Julien, défaut d'avoir la sienne.
C'est vrai, exactement. Il y a une autre question qui est préparée par Liliane Roudière, nimbée d'une ironie toute Stendhal. D'Alien. Question qui tâche un peu, Liliane Roudière.
Tout à fait. Ce roman de Stendhal donc, s'appelle Le Rouge et le Noir, et c'est vrai qu'on y évoque beaucoup les couleurs. Les femmes rougissent souvent. En 1830, une critique du Figaro note, je cite, un roman plein de couleurs, mais c'est le vermillon qui déborde. En 1834, Stendhal écrit Lucien Leven qui voulait appeler l'amarante et le noir. L'amarante est une plante sans gluten, si ça vous intéresse.
D'accord.
En 1837, il écrit un roman publié à titre posthume qui s'appelle « Le rose et le vert ». Alors, Marie de Gant, est-ce que Stendhal est daltonien?
Je peux vous faire plusieurs réponses. La première, oui, histoire de bien couper l'herbe sous le pied de tous les gens qui aiment rêver, c'est qu'il écrivait dans des chemises de couleur. Et voilà, donc les plantes sont de chacun de ses livres... ont le nom des couleurs des chemises dans lesquelles il mettait ses feuilles.
Très ordonné.
L'autre lecture, c'est une lecture symbolique de dire que le rouge et le noir, c'est l'opposition entre l'armée et la religion, donc les deux destins ou les deux voies de libération qui s'offrent à Julien pour fuir l'atroce petite ville miteuse dans laquelle il a grandi, voilà. Ou alors, c'est une lecture purement artistique, c'est les couleurs de l'église dans laquelle il va tuer Madame de Rênal, le rouge et le noir.
Liliane Roudière.
Oui, il y avait une autre possibilité, je crois aussi, c'était que il avait peut-être voulu faire du buzz avec ça, c'est-à-dire qu'il répond à côté de la question quand on lui pose.
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous parlez du buzz, mais c'était l'inventeur en France du buzz. Il dit que justement, il faut faire mousser les romans dans les revues, etc. Donc c'était, il était assez conscient
génial,
de ça, effectivement.
L'inventeur, il appelait ça l'inventeur du buzz.
Le dazzling. Et en anglais, dazzled, c'est être un peu comme ça, médusé, être bon. Donc oui, faire de la mousse. Alors il s'y connaît, effectivement. Mais c'est quand même un... Disons que c'est un flambeur qui a quand même tout raté. Son roman a eu très peu de succès. Lui-même, il a aussi importé un autre mot étranger dans la langue française, qui est le fiasco. Et le fiasco, c'était à l'opéra en Italie, quand un opéra marchait pas. Et lui, il a dit que c'était quand on était amoureux, qu'on n'arrivait pas à physiquement satisfaire sa maîtresse. Et c'est lui qui l'a importé dans la langue française. Faire fiasco, c'est tout ça fait Stendhal.
Ça vient de Stendhal.
Très joli. Ouais. Très chic.
Pour répondre à votre question, oui, quand même, sur le rouge et le noir, en fait, c'est, à mon avis, la tenue des contradictions. Voilà. Et Stendhal, il symbolise un romantisme qui n'est pas la mièvrerie telle qu'on l'imagine, mais qui est au contraire la contradiction tenue, la dualité permanente.
Bah c'est magnifique, un inventeur du buzz, du en même temps permanent,
du fiasco.
Et
il avait conscience qu'il n'aurait du succès, il avait dit, je crois, lui-même qu'une fois mort.
Oui, et alors il le dit souvent, il dit j'écris pour les années 1900. Bon, ça c'est assez charmant, mais c'est commun à beaucoup de romantiques en fait. Et en fait, ils sont tellement en haine du présent et de leur époque bourgeoise qu'ils disent écrire pour l'avenir. Et la littérature est une sorte de message adressé à l'avenir aussi. D'où le fait qu'ils écrivent de manière un peu cryptique, en cachant, en mettant des procédés ironiques pour protéger ce qui est beau, pour que ça traverse les périodes. Leur idée, c'est que si on écrit trop directement les choses, elles vont être consommées au présent et ensuite elles auront perdu leur saveur dans l'avenir.
Il aurait fallu des professeurs comme ça, ouais, pour vous ouvrir les yeux. Le Rouge et le Noir, Marie Degand, vous l'avez lu à quel âge?
Alors, je l'ai lu à 12 ans.
Oh, ah oui, d'accord.
Mais moi aussi, j'habitais Verrières et je travaillais dans une scierie et c'était ma seule échappée, voilà.
Alors moi, je l'ai lu vers 20 ans, figurez-vous, c'est-à-dire l'année dernière. Et oui, pourquoi vous riez? Ça aurait pu être vrai, je suis désolée. J'ai un peu ramé, j'ai passé quelques pages. Alors, il faut croire que certaines chroniqueuses ont éternellement 20 ans parce qu'elles se demandent toujours le passage qu'on peut sauter. Et je sais que c'est pas chrétien. Quel passage peut-on donc sauter dans Le Rouge et le Noir, Élodie?
Alors je dirais qu'il y a deux ventres mous,
dans Le Rouge et le Noir, l'arrivée au séminaire de Julien Sorel, après qu'il a quitté la maison de Monsieur et Madame de Rênal. Il rencontre l'abbé Pirard, qui va devenir son ami et son protecteur. Julien est tellement impressionné qu'il en tombe dans les vapes. D'ailleurs, je note que, effectivement, ça tombe beaucoup dans les vapes dans Le Rouge et le Noir. Madame de Rênal se trouve mal toutes les 10 minutes environ. Migraine, syncope, fièvre inopinée. Donc, soit le corset est trop serré, soit il y a une saloperie dans l'eau. Déjà, à l'époque. Donc, Julien rencontre l'abbé Pirard, c'est super. Ils se font des blagues en latin et des accolades de crypto-gays. Et là, pour des raisons que j'ignore, il y a toute une série de tractations politiques hyper compliquées. Je cite « Monsieur l'abbé de Frilair prit le carrosse de Monseigneur l'évêque et elle a lui-même porté la croix de la Légion d'honneur à son avocat. Monsieur de la Mole demanda des conseils à l'abbé Chélan qui le mit en relation avec Monsieur Pirard. » Vous n'avez rien compris, moi non plus. C'est aussi palpitant que de lire Le Journal officiel. Il faut sauter. Deuxième ventre mou dans la deuxième partie du livre, la partie parisienne. Julien fait la rencontre de la fille du marquis chez qui il travaille. Elle s'appelle Mathilde de la Mole. Alors là, on a rarement vu une relation aussi fastidieuse. C'est-à-dire que Melrose Place à côté, c'était droit au but. Mathilde vient à peine de donner rendez-vous à Julien dans sa chambre qu'elle lui dit « Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompée. Allons bon. » Du coup, Julien, qui ne l'aimait pas, se met à l'aimer. Mathilde l'aime à nouveau brièvement et finalement non. Elle rompt définitivement, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est que ça prend 7 chapitres. Ensuite, Julien fait semblant d'en aimer une autre. Comme ils ont 12 ans et demi, ça fonctionne. Mathilde l'aime à nouveau. Plus que tout, elle est prête à sacrifier son honneur pour lui. Sauf que Julien, il n'y est plus. Donc, vers la fin du livre, il se fait la réflexion suivante. Il est singulier qu'une passion si vive et dont je suis l'objet me laisse tellement insensible. Et je l'adore il y a 2 mois. Oui, Julien, il est singulier. En effet, tu l'as dit bouffi et à vrai dire un tout petit peu casse-pipe. Alors, en fait, je dirais que Le Rouge et le Noir, c'est une lecture qui doit être accompagnée par un bon prof, comme vous, Marie de Gante, qui me donneriez presque l'envie de le relire et même les passages que j'ai sautés.
Oh. C'est gentil, c'est mignon.
Bon compliment, oui, Marie de Gante.
Même si vous n'aimez pas Stendhal, vous avez bon fond quand même. Hein, c'est... Parce que normalement, c'est comme ça qu'on repère les gens. C'est-à-dire que les gens qui ont le cœur sec, ils aiment Balzac. Alors que les gens qui ont le cœur tendre,
j'adore
aiment
Balzac.
Stendhal.
Mais ceux qui aiment le cœur sec, Constance, on le sait. Vous avez le cœur sec.
Alors, Marie de Gante, Élodie parlait de Mathilde de la Mole. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que chaque fois qu'il est question d'elle, il y a de l'attraction, il y a des rendez-vous ratés, des rendez-vous parfois accomplis, mais il n'y a pas de désir. Et Julien Sorel, en tout cas le désir qu'il pourrait éprouver à la fois pour Madame de Rênal ou pour Mathilde de la Mole, il n'est jamais décrit. Et quand Julien Sorel les conquiert enfin, Stendhal évacue la scène. L'acte sexuel n'est même pas évoqué. Alors pourquoi Stendhal évite les descriptions du désir et de l'amour ?
Alors je pense qu'il y a du désir, mais il est écrit à demi-mot. Et c'est ça qui fait l'intérêt du désir. Sinon, c'est de la pornographie pour Stendhal, comme pour nous aujourd'hui. Donc effectivement, Le Rouge et le Noir, c'est pas Tinder. On va pas droit au but. Mais quand vous voyez un personnage qui rougit, ça peut avoir plein de sens. Et c'est à vous de laisser votre imagination parler. Vous mettez ce que vous voulez derrière cette rougeur. Et cette écriture qui évite le désir et qui évite surtout de parler des corps et de la consommation de l'amour, on va dire ça comme ça, il me semble que c'est vraiment la marque de fabrique du style de Stendhal. C'est une écriture de l'ellipse. Donc dès qu'il y a quelque chose d'un peu important, que ce soit les scènes de sexe, les scènes du sommet amoureux purement psychique ou les scènes de grande violence, ellipse.
Oui, parce que la condamnation de Julien, la mise à mort de Julien, pareil, est évacuée comme ça.
Exactement. Lorsqu'il a la tête tranchée, on nous décrit ça vraiment chaîne de puits. C'est-à-dire, en 3 mots, c'est hop, c'est évacué. Mais c'est une façon de protéger ce qu'il y a de plus sacré. Alors que si Stendhal nous le décrivait, ce serait emphatique. Donc ça vous laisserait rien à imaginer. Et je trouve que c'est vraiment une écriture qui nous laisse très libre. C'est vraiment une transmission de responsabilité à nous, aux lecteurs, lectrices, de mettre nos affects, notre sensibilité dans cette écriture plus sèche, justement parce qu'elle pourra se disperser en chacun et en chacune selon son désir, au lieu de nous dire quoi penser, de nous taper sur la tête.
C'est un écrivain qui fait confiance au lecteur.
Oui, alors parfois, effectivement, sa confiance peut être déçue, si j'en juge par les jugements durs qui sont prononcés contre ce pauvre Julien. Mais c'est une façon de faire confiance et puis aussi de croire au pouvoir du langage. Et en ce sens-là, c'est vraiment une écriture poétique. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a tout un imaginaire qui est seulement suggéré.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer, elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur, je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires.
La colère de Gaëtan Roussel.
France Inter. Livre et châtiment.
Enfin, le rouge et le noir, ça vous dit quelque chose?
Oui, monsieur, ça me dit quelque chose.
Pourquoi?
Je fais de la tapisserie, du canevas, et je l'emploie très souvent.
Quoi donc?
Le rouge et le noir.
On ne s'en lasse pas. Gérard Pabiot, dans Gérard Pabiot teste les classiques, petit feuilleton, comme on disait à l'époque, de 1986. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission assoiffée d'ambition qui n'hésite pas à culbuter une paisible mère de famille. Elle servira de marchepied. Je viens de résumer honteusement. Je reconnais le rouge et le noir de Stendhal, l'objet de notre opportunisme ce dimanche. Et pour nous hisser vers les sommets de la noblesse, je suis avec mon petit ascenseur social qui n'a jamais de panne, Constance. Et avec nous, Constance.
Oh Clara, j'aime votre poésie. Pour faire des alexandrins sans y mettre 12 pieds ni rimer, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Liliane Roudière, notre rime riche, Elodie Emery, notre rime plate à tété, et Marie Degand, notre rime embrassée mais consentante et qui est toujours là.
C'est une très bonne nouvelle. Alors, je ne vous le cache pas, Marie Degand, nous avons un petit faible pour Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir. On la trouve douce, influençable, gentille, elle a 36 ans, alors que Julien Sorel en a 19. Elle l'aime sincèrement, elle ne voit pas qu'il l'utilise pour se hisser dans la société quand même un peu. Elle est pure, il est un peu cynique, elle ira quand même le voir en prison hein, alors qu'il a tenté de la liquider. Bref, on l'a trouvé un poil bonne poire. Alors, nous avons eu envie de lui donner une chance, d'imaginer ce qu'elle aurait pu faire si elle avait un peu mieux pris sa vie en main. Elle se serait peut-être offert une cure de thalasso, tenez. Eh bien, pour le savoir, nous nous sommes rendus en Vendée, dans un centre de thalassothérapie. Madame de Rênal, je vous attrape avant votre enveloppement boumarine.
Oui, mais vite fait alors, là. Je suis là pour m'occuper de moi.
Ah bah ça fait plaisir, vous avez raison. Hein. Vous ne l'avez pas assez fait.
Madame Derville m'avait conseillé les termes de Besançon, mais les termes, c'est tellement 1829. Et puis j'aime bien le nom de ce lieu, Thalasso, l'espace bleu. Ça sonne bien, non? Ça change du rouge et du noir, franchement.
Alors cela dit, ce n'est pas le jour de vos visites bi-hebdomadaires à Julien Sorel en prison, pour lui tenir la main avant qu'il ne perde la tête?
Non mais attendez, je vous signale que cet abruti m'a quand même tiré 2 balles dans le buffet. Dites, vous avez goûté le jus du jour, concombre, vase, laitue de mer?
Non, j'ai pas goûté, mais pour revenir à Julien...
Le masseur, celui qui s'occupe de la pressothérapie, il est tout jeune, ça me fait quelque chose. Mais âme, j'en ferai bien mon 4 heures, moi. Ça me changerait des bichios à algues.
Oh mais non, mais Madame de Rênal, Julien Sorel
Ah, mais vous allez arrêter de me parler de ce type, il m'a roulé et pas dans la boumarine. J'en ai marre de consoler, de pardonner, de m'écraser, je suis pas Madame Bovary, moi. Donc non.
je n'irai pas voir Sorel en prison. Non, je n'irai pas assister à son exécution. De toute façon, j'ai horreur des kermesses. Et non, je n'irai pas me morfondre au cimetière. Je ne suis pas Mathilde. Tenez, prenez un jus.
Ah, merci. Alors, concombre, vase, laitue de mer, c'est costaud, dites donc, madame le Rénal. Alors, sinon, vous êtes là pour combien de temps?
Longtemps. Le centre de Thalasso, je l'ai acheté. Je me suis fait plaisir. J'ai envoyé bouler Julien, mon mari, mes enfants, mes illusions et dépensé tout l'argent familial. Place aux femmes fortes, vive les bains à bulles. Et vous allez voir, c'est moi qui ai recruté les masseurs.
Mais ils sont tout jeunes.
Je sais.
C'était la revanche de Madame de Rênal. On avait envie, Marie de Gand, on avait envie de lui rendre justice. Et c'est la seule hein, dans Le Rouge et le Noir qui n'a pas de prénom. Pourquoi?
Mais elle a un prénom. Je suis désolée, c'est mais Louise. Évidemment, sur 600 pages, c'est Louise.
Ouais, alors il apparaît rapidement.
Il apparaît hein. Très très vite. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça a son charme. Et le fait qu'elle s'appelle Louise et que seule... celles et ceux qui lisent attentivement, suivez mon regard, les vues, et ben, ça vous fait un petit cadeau. Parce que du coup, Louise de Rênal, ça sonne comme le rouge et le noir. Vous avez une euphonie comme ça. Donc c'est ça l'autre explication possible du titre. C'est qu'on a caché le nom de son amour dans le titre. Bon, ça, il n'y a que les Stendhaliens fous qui peuvent penser ce genre de choses. Hein, mais voilà.
Mais on vous veut comme précepteur, Marie de Gand. On vous veut vous.
Alors, précepteur, promis, je ne séduirai pas la maîtresse de maison si vous m'engagez pour vos enfants.
C'est vrai. Alors, les classiques fourmillent hein, de personnages secondaires. Vous, Liliane Roudière, qui n'aimez pas l'injustice, vous avez pour mission de révéler un personnage de second plan. Vous êtes du côté des déclassés. Pas sûr que Julien Sorel vous aurait aimé. Vous leur rendez une dignité littéraire. Et je me demande bien qui vous avez choisi comme personnage secondaire dans Le Rouge et le Noir.
Eh bien, cette semaine, j'ai choisi dans ce roman la femme avec un F majuscule. Je trouve que c'est le personnage secondaire essentiel.
Alors, ça n'existe pas, Liliane, la femme avec un grand F majuscule.
Eh oui, mais pourtant, Julien Sorel la cherche, le lecteur aussi, et Stendhal, je crois, aussi. La femme majuscule serait une compagne prude, mère dévouée, bonne cuisinière, mais qui, entre deux biberons, ne serait pas contre la position du palmier inversé du Kama Sutra. Pour résumer, un peu maman, un peu putain, et beaucoup une légende. Pour le jeune Julien Sorel, la femme idéale a deux visages. D'un côté, Madame de Rênal, discrète, provinciale, bien conservée pour ses 36 ans, mariée, trois enfants. Elle aime la vertu et les promenades dans le jardin. De l'autre côté, Mathilde de la Mole, parisienne que fantasme la province. Belle, bien née, très convoitée, elle règne dans les salons. C'est aussi la reine du bal. Et la discrétion n'est pas sa maison. Mathilde de la Mole, c'est Beyoncé dans le corps de Charlène de Monaco. Elle dit, il faut que je prenne du punch et que je danse beaucoup. Je veux faire effet à tout prix. La mariée et la célibataire, la pépère et la bling-bling, tombent toutes deux red love du transclasse Julien. Lui, petit futé, observe que le regard de Madame de Rênal s'anime, je cite, « du feu des passions », tandis que celui de Mathilde brille « du feu de la saillie ». Résultat, Julien éprouve un amour naturel pour la provinciale et un amour de concupiscence pour la parisienne. D'ailleurs, c'est lui qui entreprend, comme une patate, Madame de Rênal, la maman, alors qu'il subira les assauts de Mathilde. Alors, chez Stendhal, la parade amoureuse est truffée d'atermoiements cucu. On dirait mes copines. Tu crois qu'il va me rappeler? Il a pas liké mon post sur Facebook. Julien va posséder bibliquement ces deux femmes, mais côté plaisir charnel, comme le disait feu Jacques Chirac, ça lui en bouge une sans remuer l'autre. Lorsqu'il sort de la chambre de Madame de Rênal, il pense « Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça ?» À propos de Mathilde, c'est idem. Cette nuit lui sembla singulière plutôt qu'heureuse. Et là, j'ai très envie de lui dire, mais c'est peut-être Julien parce que la femme idéale n'existe pas. Et que là, tu as juste coupé un fantasme en deux. Et que justement, un fantasme, à la différence de la mortadelle, ça ne se tranche pas.
Merci Liliane Roudière. Marie de Gand, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que Madame de Rênal et Mathilde Lamolle composent à elles deux le visage de la femme idéale?
Oui, je suis assez d'accord. C'est effectivement une vision assez enfantine, un peu puérile et macho de la femme. Mais sa rédemption, à Stendhal comme auteur non misogyne, c'est son petit roman qui s'appelle La Miel, que personne n'a lu, qui est un roman qui a été publié de façon posthume et qui est l'histoire d'une Julien Sorel en jupon. Et c'est La Miel qui est au centre du roman, c'est une héroïne, c'est une petite paysanne qui va utiliser les hommes et la société environnante pour parvenir et être libre. Alors, allez le lire. À l'époque, MeToo, c'est notre héroïne.
France Inter, Livre et châtiment.
Ce qui est remarquable dans le cas de Stendhal en particulier, c'est un autre élément. Et le curieux est que Stendhal s'en est toujours défendu. Cet élément, c'est la politique. On connaît la fameuse phrase de Stendhal qui dit que la politique dans un roman y éclate comme un coup de pistolet.
Louis Aragon en 1960. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui déniaise les classiques littéraires comme une cadra croquerait dans un damoiseau. C'est ce qui se passe dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, même si Madame de Rênal paiera cher d'avoir succombé à Julien Sorel. Et c'est elle d'ailleurs, Madame de Rênal, qui clôture Le Rouge et le Noir. La dernière phrase est sur Madame de Rênal, mais pour la faire mourir en quelques mots. Je vous lis les deux dernières phrases en question. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie, mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Tout y est. Le côté maternel de Madame de Rênal, sa loyauté, elle est fidèle à sa promesse, sa discrétion, elle meurt sans drama, et sa mort ne lui est même pas littérairement offerte puisqu'elle est ficelée en une phrase à la toute fin. Je sens, Marie de Gand, que vous bouillonnez.
Ah oui, je vous trouve injuste. Et justement, c'est quelques mots pour montrer que c'est la seule qui soit vraiment passionnée. Alors que Mathilde, il y a 1000 mots, mais... c'est lourd, l'emphase, c'est toujours de la fausseté.
Oui, alors je vais rester sur le côté sécheresse parce que ça me permet de faire la transition de cette chronique aux auditeurs. Car, chers auditeurs, malgré sa beauté, nous vous proposons néanmoins de réécrire cette fin. Rendez justice à Madame de Rênal, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez tout inventer. Julien Sorel n'est pas mort, il revient se venger façon Comte de Monte Cristo. Madame de Rênal étrangle Mathilde de la Mole et du coup c'est elle qui meurt, ce que vous voulez. Ça doit faire 5 lignes maximum que vous nous envoyez avant lundi 17h à l'adresse suivante, livret châtiment@radiofrance.com au singulier tout attaché. et la meilleure fin sera lue à l'antenne par Constance dimanche prochain. La semaine dernière, c'est la fin du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry que vous avez réécrit. Je vous le donne pour mes mots, le livre se terminait par la disparition du petit prince et le chagrin de l'aviateur. Vos fins sont beaucoup plus joyeuses. Hein. Mention spéciale à Lou Odevski Maslov, j'essaie de dire sans écorner, à Silver Viziedo, à Véronique Delacruz, à Pascal Bonnel, à Marc-Alain Queiroz, le roi de la contrepétrie, ça on en a chaque semaine, à Christian Petrogali, mais il faut bien en choisir un. Et le vainqueur, Constance, est
Silver Viziedo. Je vais vous lire sa fin.
Lisez-nous
sa
fin.
Dimanche matin, réveil roide, une touffe de poils dans le naseau, ce foutu clébard entre lui et la Suze. Qu'est-ce qu'il fait dans le paddock celui-là? Et ce rêve, ce qu'on est couillon parfois, ça parle pas les goupilles. Et ce môme, tiens, je vais me grailler une tige à la vitre. La Suze, c'est quoi? C'est de quoi j'ai rêvé cette nuit? Vos mouettes, la gueule, j'ai turpiné toute la nuit, moi. Toujours aussi aimable, celle-là. Moi qui voulais l'amener voir le dernier clouseau tantôt, c'est râpé. J'irai tout seul avec le kleps. Regard molasse sur Paris, désolé. Qu'est-ce qu'il donnerait pas pour repartir là-bas dans le désert?
Merci Jean Gabin. Un petit côté poulevo parisien hein, chez Silver Viziedo.
Oui, et ben ça change de Saint-Dal.
Oh, elle ne peut pas s'empêcher. Elle peut pas. En tout cas,
coup de pied jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Je me vengerai.
En tout cas, bravo à Silver Viziedo. Et puis, merci beaucoup de participer. Alors, comme les histoires d'amour avec différence d'âge, hein, comme la Rivise, mais comme les guerres napoléoniennes, cette émission a une fin. Or, nous ne saurions partir sans les meilleurs soldats que sont les libraires. Chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des libraires, disponible en librairie, nous demandons à un libraire la question la plus farfelu entendu dans sa boutique. Et cette semaine, on part au Pays Basque avec Marie Irigoyen de la librairie Irigoyen à Bayonne. La librairie est dans le quartier historique de Bayonne, très jolie, tout près de la Nive. Bonjour Marie.
Bonjour Clara.
Alors faites-moi rêver et dites-moi que ce dimanche, vous avez préparé un gâteau basque aux cerises qui est la meilleure chose au monde après un livre.
Oui, alors il y a une polémique ici entre le gâteau basque aux cerises et le gâteau basque à la crème. Oh, ça fait des discussions sans fin.
Mais cerise, Marie, qu'en pensez-vous?
Non, moi je préfère la crème.
Ah ben vous voyez, on vient d'avoir un échange stendhalien. On a fait voilà. En même temps, on a été la dualité des contradictions. On a été dans le macronisme littéraire, quoi. Marie, quelle est la question la plus farfelue entendue dans votre boutique?
Eh bien, il s'agit d'une question de collégien qui voulait justement acheter un classique. Et il me demande cette chose mystérieuse, les tourbières de sapin de Moliets.
Alors attendez, les tourbières de sapin de Moliets.
Alors, et Moliets, il faut savoir que c'est une station balnéaire des Landes, pas très loin d'ici. Et voilà, ça c'est une
remarque. Ah, il y a Liliane binaire. Qui l'a, il ouais. y a Constance aussi qui l'a. Bon, ouais. Allez-y, Marie, ça voulait dire quoi oui. en fait? C'était quoi le vrai titre?
Les fourberies de Scapin de Molière.
Moi, je l'ai parce que je suis dyslexique, du coup je le comprends.
Mais alors attendez, parce que les tourbières, ça désigne quelque chose?
Mais justement, parce qu'à Moliette, il y a des tourbières dans les pins et les sapins.
Donc il a fait une espèce de guide touristique à partir des fourberies oui. de Scapin de Molière. En fait, il a oui, mixé oui. ça avec la connaissance géographique de son endroit, en fait, le petit.
Exactement, il a réinventé un classique et il a enraciné dans son territoire.
Eh bien, merci beaucoup, Marie. Vous embrassez merci ce bon vous. Pays basque. Hein, et cerise à la crème, ça devrait le faire, les deux, là.
Ah oui, oui, oui. essayer.
Merci Marie et merci Marie Degand, autre Marie, d'avoir été notre invitée. Votre livre Le Rouge et le Noir, connaissance d'une œuvre, est paru chez Bréal. Le Rouge et le Noir, ballet de Pierre Lacote sur une musique de Massenet, se tient à l'Opéra Garnier à Paris jusqu'au 4 novembre. Merci à Constance, Élodie Emery, Liliane Roudière, à Stéphanie Texier en réalisatrice, Fanny Leroy en chargée de programme, à la technique Benjamin Troncin. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. On vous embrasse et à dimanche prochain.